Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des millions de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Atilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre ainsi le relais du pétrole dont les réserves s'épuisent. Mais la catastrophe n'est pas loin. C'est le pitch du dernier long métrage des studios Folimage, une fable écologique réalisée par Jacques-Rémy Girard et Benoît Chieux. Le film est prévu en sortie nationale le 12 février 2014, mais le public du Arras Film Festival a eu l'occasion de le découvrir en avant-première dans le cadre du Festival des enfants lundi 11 novembre. C'est le compositeur Serge Bresset qui était chargé de présenter le film au public. C'est un habitué des studios Folimage puisqu'il a composé pour eux de nombreuses bandes originales. Entretien avec Serge Bresset durant lequel j'évoque avec lui son travail sur Tante Hilda, mais aussi sa manière de composer pour les films d'animation en général.
Vous êtes habitué un petit peu à ce genre de composition puisque vous travaillez avec le réalisateur Jacques-Rémy Girard depuis pas mal de temps maintenant.
40 ans.
Vous avez composé également la musique du film Une vie de chat, qui était plutôt une musique assez jazzy. Et là, ça change complètement d'ambiance. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous avez travaillé ?
Ah mais ça c'est vraiment incroyable dans le cinéma d'animation et aussi pour tous les compositeurs, c'est qu'en fait ça change tout le temps. Moi je suis souple et modulaire, c'est-à-dire qu'on me demande de faire du symphonique, je fais du symphonique, on me demande de faire du rock, je fais du rock. Pour Tante Hilda on m'avait demandé de faire jazzy, j'ai fait jazzy. Donc là c'était un peu un mix de tout ça, je réponds vraiment aux exigences des réalisateurs.
Alors, si on parle du film, il y a quand même 7 ans pour faire ce film, c'est un travail un peu de titan. Quelles sont les principales difficultés que toute l'équipe a rencontrées au cours de la réalisation de ce projet ?
D'abord les différentes phases, parce qu'on dit 7 ans, mais c'est à partir du moment où le réalisateur a décidé de faire ce film. Donc il y a quand même, sur les 7 ans, il y a 2 ans d'écriture, il y a 1 an pour essayer de trouver les financements, pour commencer à faire les premiers dessins. C'est très très long, très très long. Ensuite, il y a 2 à 3 ans de fabrication. Donc c'est, évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a 230 personnes qui ont travaillé sur ce film. Il y a 200 animateurs et dessinateurs. C'est beaucoup. C'est obligé d'être si long parce que 24 images par seconde, évidemment, image par image, c'est très, très, très difficile.
Alors, ce film, on l'a bien compris, c'est une sorte de pamphlet écologiste contre l'industrie chimique qui manipule génétiquement les plantes. Et parallèlement, de par son minimalisme et son style des plus épurés, puisque tous les dessins sont faits à la main, il résiste une nouvelle fois aussi devant les formes de technologie de dernier cri de l'animation.
Bien sûr, on est un studio en France à faire travailler d'ailleurs que des Français, alors que tous les autres films d'animation, même français, sont faits dans les pays de l'Est ou à Taïwan ou je ne sais pas trop où. Donc nous, c'est fait complètement en France et c'est très long, je redis, c'est 24 images par seconde, image par image, pour faire bouger un bras, tout est fait à la main, tout voilà. C'est vrai que c'est un travail un peu compliqué, oui.
Les personnages évoluent plutôt dans la caricature, le burlesque, voire la dérision. Est-ce que c'est ce qui permet aux idées les plus folles et les plus absurdes du scénario? Je pense surtout au développement surdimensionné des plantes mutantes de parfaitement fonctionner en fait.
C'est ce qui est intéressant à faire avec l'animation. Avec l'animation, on peut faire voler un homme, on peut faire une plante qui monte au ciel, on peut aller sur la lune. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça l'intérêt du film d'animation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de copier un film normal, un film en prise de vue réelle. On est dans un autre univers.
Alors c'est une fable écologique, mais en même temps on peut dire aussi que c'est plutôt un manifeste critique du monde dans lequel on vit, où le pouvoir corrompu, les politiciens impuissants, le capitalisme, l'appât du gain gangrène un peu la société.
Oui, c'est toujours un petit peu la tasse de thé des deux réalisateurs. Font toujours un petit peu. On fait pas un film bêtement pour détendre. Eux ont toujours fait des films pédagogiques en direction des enfants. Ma petite planète chérie, Le bonheur de la vie. Oui, effectivement, c'est un film qui se pose des questions et qui pose des questions aux autres. Qu'est-ce qu'on va devenir si les OGM continuent à progresser? Parce qu'il faut savoir qu'en France, malgré l'interdiction, je crois qu'il y a 170 000 hectares d'OGM qui sont encore en exercice.
Et vous pensez que c'est plus facile de faire passer ce genre de message dans l'animation plutôt que dans le cinéma à prise réelle ?
Oui, bien sûr, parce qu'en plus, ça touche les enfants. Donc, je crois que les enfants sont plus sensibles que les adultes qui sont blindés, qui ont tout vu. Hein. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de pédagogique à avoir avec nos enfants. Et pourquoi pas leur dire que faire attention à ce qu'ils mangent, faire attention à ce qu'ils font, peut-être, oui.
J'adorais le métier de mes parents, botaniste. J'adorais mélanger les plantes, les essences de fleurs. Je rêvais de fabriquer des potions magiques.
Oui, j'écoute.
Bonjour, on vient de faire une découverte faramineuse.
Faramineuse, tiens donc.
Les plantes sont capables de grandir façon géante et dégager une énergie de dingue.
Quand on aura passé toutes nos cultures au NGO, les bénéfices vont grimper.
Mesdames et messieurs, attirez.
Il y a une symbolique aussi qui revient souvent dans ce film, c'est l'abeille et le miel.
Bah, l'abeille, on le sait en ce moment, enfin dans notre, moi je viens du sud et les abeilles, il n'y en a quasiment plus. Le miel a doublé de prix et a triplé, donc on n'est pas loin du coup de notre fiction à nous, c'est que le miel a des sérieux problèmes et c'est dû effectivement à tous les pesticides qui sont dans les répandus dans les champs et les abeilles, enfin dans notre région meurent, on a de la peine à se ravitailler en miel, donc on n'est pas loin. Et puis c'était un clin d'œil aussi à Josiane Balasco qui joue le personnage de Dolores qui s'empiffre de, alors qu'elle détruit la nature, continue à s'empiffrer de miel jusqu'au moment où elle a plus de miel. Donc là il se pose un problème.
Comment ça s'est passé la rencontre avec Josiane Balasco, Bruno Locher, il y a également Sabine Azéma, François Morel. Est-ce que vous les avez contactés avant ou c'est après le film une fois terminé que vous avez dit on va prendre ces voix-là ou...
Nous, ce qu'on aime à Folimage, c'est de faire intervenir en premier, carrément en premier, tous les artistes, enfin les acteurs. Donc les acteurs vont mettre leur voix sur quasiment rien, puisque rien n'a été fait. Et c'est après les dessinateurs, en écoutant Josiane Balasco avec son franc-parler, qui vont commencer à dessiner. Donc effectivement, une fois après avoir entendu la voix de Josiane Balasco, il y a des choses qui ont commencé à changer tout de suite aussi. Et c'est pas facile pour ces acteurs-là, ils n'ont pas l'habitude c'est quasiment un travail de théâtre puisqu'ils font leur dialogue sur rien. Ils ont en face le réalisateur qui fait la réplique, mais par exemple Sabine Azéma a eu beaucoup beaucoup de peine à rentrer dans le personnage et à un moment donné, elle a dit à Georges Crémy, le réalisateur, bouge pas, je m'isole un peu. Donc elle s'est isolée avec le texte et curieusement, elle s'est fait un chignon comme Tantilda, les cheveux en point, pétard, elle a eu besoin de se mettre dans le personnage presque physiquement en se déguisant et elle est revenue, elle dit ça y est Jacques, j'ai trouvé mon personnage.
Il y a aussi cette technique de dessin, c'est vous tentez encore une nouvelle fois une nouvelle technique, celle du stylo à billes, c'est ça ?
Ah oui, il y a eu 4000 stylos à billes qui sont passés là. Alors le stylo à billes est intéressant parce que ça fait des traces plus importantes que le crayon à papier. Ça fait des définitions, ce que nous dans le jargon on appelle la trace, c'est-à-dire ce qui dessine par exemple un visage ou un corps. Il faut toujours passer une deuxième palette de noir pour bien le mettre en valeur. Donc là, oui, alors le problème évidemment, comme tout le monde a compris, c'est que le stylo à billes, ça ne s'efface pas.
Et puis les personnages aussi et l'univers un peu, alors moi j'ai pensé tout de suite à l'univers un peu de Franquin avec notamment cette Tantilda qui ressemble étrangement à Mademoiselle Jeanne, l'une des amies on va dire de Gaston Lagaffe. Il y a aussi un peu dans l'ambiance un peu du petit Nicolas également. On pense aussi un peu à Bretéché.
Ouais, c'est vrai, en plus c'est un peu on ne sait pas trop, je pense que ça se passe dans les années 80, 70, 80, 90, on ne sait pas trop. Effectivement, il y a un côté un peu dans l'habillement des personnages. Oui, c'est ça, il y a un côté truculent. C'est toujours pareil, on peut se permettre plein de choses avec le dessin animé et en rajouter des caisses pour faire rire ou autre chose, oui.
C'est une révolution. Grâce à Tilem, la faim dans le monde est en voie de disparition.
Elle va régler tous nos problèmes.
Et qui est derrière tout ça, je vous le donne en mille. La colo, mon cher.
Cette aventure est dangereuse.
La plante incontrôlable a envahi tous les continents.
Mais je ne peux vraiment pas laisser faire ça.
Mais c'est quoi ?
Bah, des asperges, gros méta.
Alors, si on parle plus précisément également de votre travail, vous intervenez en même temps que l'animatique, hein, ce qui est une phase préparatoire, qui est une sorte de bande dessinée animée. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce moment-là ?
Alors, il faut savoir que dans un film de grand public, comme on voit à la télé ou ailleurs, quand le film est fini, le compositeur a 3 mois pour faire la musique, 3 ou 4 mois. Dans un film d'animation, il y a un problème, c'est que, en fait, vu que il n'y a pas de visage, on ne voit pas de comédien, on ne voit pas d'expression, vraiment c'est quand même curieux, on n'arrive pas à lire les sentiments comme dans un film normal, voilà. Donc la musique est là quand même pour venir faire comme un personnage et essayer d'appuyer un peu les sentiments. Et en plus, deuxièmement, il y a un problème de synchronisation, c'est-à-dire que la musique devient une épine dorsale du film. Donc moi, ça m'arrive souvent dans une musique de 3 minutes, par exemple, d'avoir 15 points de synchronisation qui réagissent à des problèmes, ce qui n'est absolument pas le cas dans un film normal où on envoie la musique et on la baisse. Donc ça te permet aussi, quand on fait jouer ça par un orchestre par exemple symphonique, tous les musiciens doivent avoir un casque avec le métronome dans les oreilles pour que ce soit hyper, hyper précis, quoi, parce que c'est très difficile, très, très synchronisé, voilà, avec l'image.
J'imagine que vous travaillez toujours en duo avec le réalisateur aussi. Comment ça se passe l'échange avec lui pendant les phases de travail? Parce que c'est important, lui il connaît bien l'histoire et sait où il va. Est-ce qu'il vous impose des choses ?
Pourtant, Tilda, j'ai la chance d'être avec un réalisateur que je connais depuis une trentaine d'années, donc je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas. Par contre, là, il y avait 2 réalisateurs, donc c'était peut-être un peu plus compliqué parce que l'autre est un réalisateur plus jeune, donc il fallait faire une espèce de moyenne des deux pour faire une musique qui intéresse les deux. C'était peut-être là le plus compliqué, mais bon, tout s'est très très bien passé. Mais je voulais dire par rapport à la fabrication de ce film, qu'un film normal qu'on voit, par exemple un téléfilm à la télé, c'est 5 minutes de production par jour. Un film de grand public, c'est 2 minutes, 2 minutes 30 par jour. Et nous, c'est 3 secondes par jour. 3 secondes par jour de fabrication, donc c'est pour ça que c'est si long.
Il faut laisser nature libre.
Est-ce que Jean-Jacques Rémy Girard et Alain Gagnol, entre autres, utilisent aussi des bandes témoins, les sortes de grands compositeurs classiques qui posent sur les premiers essais pour avoir des repères ?
Ben, ça, c'est le point négatif de mon métier. Hein. C'est effectivement ces bandes témoins qu'on appelle theme track en anglais. Bon, j'ai plein d'anecdotes, mais sur, par exemple, c'est un énorme problème que posent tous les compositeurs ont, c'est-à-dire que au début du projet, sur l'animatique, c'est-à-dire que sur le premier jet, les réalisateurs mettent des musiques qu'ils entendent. Donc, si évidemment ils mettent du Stravinsky, du Bach, du Chopin, enfin tous les plus grands compositeurs du monde, c'est vrai qu'on peut pas lutter. Hein. Je me souviens pour Miel Migou, le réalisateur avait mis le Requiem de Fauré, c'est une des 3 plus belles musiques du monde, donc à un moment donné, j'ai bien essayé, mais je ne peux pas lutter avec ça.
Vous avez travaillé aussi différemment, notamment dans Le Moine et le Poisson de Michael Dudok. Vous avez travaillé de manière complètement différente, puisqu'il y avait des contraintes.
Il n'y avait pas de storyboard, il n'y avait que les dessins, mais j'avais une espèce de feuille de route, c'est-à-dire à 0 seconde tu joues, à 1 seconde tu vas faire un petit pas parce qu'il va sauter, à 3 secondes tu vas faire boum parce qu'il va tomber. Enfin, j'avais une espèce de règle comme ça, implacable, voilà. Et donc j'ai composé la musique sur ses ordres, un peu ce qu'il entendait dans sa tête. Et une fois qu'elle était composée, le réalisateur de Moine et le Poisson a décrypté la musique note par note et a tout reconstruit, enfin a construit son film sur la musique. Ah oui, ça c'est le film où j'ai le plus travaillé, oui.
Et puis dernière question, est-ce que vous faites de nombreuses séances de réécoute pour savoir si c'est vraiment la musique que vous vouliez à ce moment-là, jamais de regrets ?
Bah, il y a toujours des regrets, parce que c'est tellement inimaginable. Pourquoi on se dit on aurait pu mettre un hautbois à la place de la clarinette? Pourquoi, si j'avais mis une guitare électrique, ça a une autre dimension? Si j'avais mis un coup de timbal là, ça aurait cassé le cou. La musique est très vicieuse, et la musique a l'importance de pouvoir détourner une image, et c'est vrai qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc non, une fois que c'est fini, j'ai des fois un peu de regret d'avoir pas fait autre chose, des fois, mais c'est très rare.
C'était une interview de Serge Bressé, compositeur de Tante Hilda, un film présenté dans le cadre du Festival des enfants du Arras Film Festival 14e édition. Ce long métrage réalisé par Jacques-Rémy Girard et Benoît Chieux sera sur les écrans français le 12 février 2014.